Ciao.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue en direct de Fribourg depuis la BCF Arena, plus précisément pour ce match de hockey sur glace, le 27e de la saison du GSHC qui lance donc ce soir la deuxième partie de la saison, 52 matchs divisés par 2, 26, le 27e est donc le premier, merci de m'applaudir, le 27e est donc le premier de la fin, la deuxième partie de saison, Genève Servette qui entame donc cette deuxième moitié face à Fribourg-Gotteron, un choc remont au sommet qui plus est, que j'aurai l'honneur et la joie de commenter avec Nico Puchat. Bonsoir Nico, comment vas-tu?
Écoute, l'honneur et la joie, c'est pas ce que tu m'as dit sur tout le trajet aller quand même. Hein.
Je dis toujours l'honneur et la joie.
Tu fais le beau à l'antenne, mais t'assumes peu tes propos quand même,
oui,
je trouve.
Il y en a qui font le beau, mais dehors.
Voilà, ils n'ont pas de billets.
Parce qu'ils n'ont pas pu rentrer. Voilà, vous aurez compris, on parle d'un confrère. Je parle d'un confrère, on ne va pas dire plus. Genève Servette contre Fribourg-Gotteron, contre Genève Servette pour dire dans l'ordre. Nico, le quatrième contre le deuxième, en jeu la deuxième place. Finalement, ça va bien pour Genève Servette.
Bah ouais, bah en même temps, qui a dit le contraire?
Oh, plein de gens.
Qui se serait permis d'affirmer le contraire? Personne.
Un podcast complet des fois qui dit que ça va pas très bien.
Mais on dit toujours ça va.
On dit tout, et puis ça
même
fait
pendant
six
les 13e, on dit que ça va.
Les deux dernières saisons, on a dit ça va, ouais, ça va aller mieux d'un coup.
Pour nous, ça va toujours.
Voilà, Genève Servette et Fribourg-Gotteron, ce n'est pas une boutade, hein, l'équipe. Si Lausanne venait à perdre ce soir sur la glace de Rapperswil et que Genève Servette bat Fribourg, Genève Servette est deuxième ce soir.
Je pense qu'on peut rencontrer.
On a des fois l'impression, typiquement après le 2-0 contre Ajoie, etc., que cette équipe ne vaut rien. Bah, cette équipe, ce soir, peut-être deuxième. C'est un peu le paradoxe des gens qui sont devenus champions, qui sont devenus un peu pointilleux, on va dire.
Oui, mais c'est ça. Puis après, voilà, on le sait que c'est une saison qui est extrêmement serrée. Tu l'as dit, je s'arrête gagne ce soir, peut être deuxième, je s'arrête perdre ce soir. Et puis tout peut se resserrer à tous les niveaux. Voilà, c'est un peu. Cette saison, elle est difficilement lisible quand même. Hein. Il y a, à part Davos qui est vraiment détaché vers le haut, et puis Ambry. Ajoie, pardon, qui est complètement détaché vers le bas. Il y a 7 points entre le 2e et le 8e avec des matchs pour certains. Il y a 2 matchs de plus entre, par exemple, Lausanne et Zoug, hein, qui ont 7 points d'écart. Ouais. Voilà, l'essentiel pour l'instant, honnêtement, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai envie de dire, peu importe finalement, déjà, au soir de la 27e journée, finalement, peu importe. Ouais. Ce qui sera important, c'est au soir de la 52e. Et après, alors oui, évidemment, c'est toujours mieux finir 4e que 5e parce que c'est l'assurance de commencer les playoffs à domicile, etc. Mais pour l'instant, l'objectif numéro 1, ça doit être d'assurer une place dans le top 6 plus vite possible, en tout cas de s'assurer de lutter pour le top 6 jusqu'au bout. Voilà, si on peut s'assurer le top 6 plus tôt, tant mieux. Mais pour l'instant, moi j'ai tendance à beaucoup regarder la 9e place aussi, toute la 9e place, parce que c'est là qu'il y a un écart vraiment dans le classement. Et pour l'instant, je savais qu'il est largement du bon côté, mais voilà, il faudrait pas une trop grande série de défaites pour que je savais. Et surtout que c'est une semaine, on en a déjà parlé, qui est extrêmement compliquée sportivement, avec le déplacement à Fribourg ce soir, le déplacement à Zouk jeudi et la réception du leader Davos samedi. Ouais. Ça va être une grosse semaine.
Étendre la semaine prochaine, parce que Genève va jouer contre Davos, va recevoir Davos samedi et mercredi ira à Davos.
Ouais, donc voilà, c'est une grosse période là qui arrive avant cette prochaine pause des équipes nationales au milieu du mois de décembre. Et ça va être, pourrait effectivement s'assurer, alors pas définitivement, mais en tout cas vraiment pouvoir se dire on regarde vers le haut jusqu'au bout.
Ouais, Genève Servette pourrait frapper un grand coup, disons, sur cette période hein, qui s'annonce belle. Moi j'aime à rappeler, d'ailleurs on en discutait alors avec ma compagne que je salue, puisque je sais qu'elle nous écoute pour le coup. On parlait un peu par hasard du documentaire de la RTS qui avait fait la RTS Breakaway, qui avait produit la RTS en se disant mais ça paraît loin tout ça. Bah, si ça paraît loin, le dernier match de playoff du Genève Servette, c'est le 27 avril 2023. Donc c'est vrai que pour rejoindre ce que tu dis, que Genève Servette soit premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième ou sixième, ou même 7, 8, 9, 10, on sera peut-être plus critique si c'est en play-in, mais si Genève Servette fait les playoffs, ce sera déjà une sacrée avancée, puisque mine de rien, le dernier match de playoff disputé par Genève Servette a été remporté 4-1 et c'était le 27 avril 2023. C'est dire à quel point ça commence à faire long. On n'a jamais connu, on commence à les connaître un peu, mais des périodes sans playoff aussi longues, on n'a pas l'habitude. Il y avait eu une fois, mais c'était à cause de la pandémie, donc voilà, ça ne compte pas.
Non, effectivement, ça compte pas. Là, c'est vrai que c'est particulier. On en a déjà parlé, on a déjà discuté de ça dans tous les sens. mais cet enchaînement titre, titre de champion d'Europe et une longue qualification play-off deux saisons consécutives, c'est quand même assez particulier en termes d'ascenseur émotionnel. Là, on retrouve une saison un peu plus normale. Alors oui, il y a eu ces défaites, mais qui commencent à dater gentiment. Hein. On parle de défaites qui ont eu lieu au milieu du mois de septembre, et puis là, ouais, on est gentiment fin novembre, début décembre. Donc même si on l'oublie pas, on a quand même tendance à gentiment faire abstraction de cette fameuse défaite.
Pardonne, mais j'oublie pas.
Ouais, c'est un peu ça. On a l'impression que c'est dans le pied de rupture.
Ouais, sur un skyblog.
Mais voilà, cette saison redevient normale. Je dis, ça va être gagne des matchs en étant très bon, gagne des matchs en étant moins bon, mais perd aussi des matchs en étant pas bon et des fois en étant un peu meilleur. Donc voilà, une saison normale durant laquelle, bah, honnêtement, quand on voit les forces en présence, on a vu jouer toutes les équipes maintenant au moins une fois,
ouais,
si ce n'est deux. Je pense que la place de Servette est clairement dans le top 8. Allez, pour l'instant, ouais, on va dire top 8. Et je pense que le classement le traduit assez bien. On a dit, il y a un trou qui est fait entre le 8 et le 9e. Et je pense que j'ai tendance à penser que ce trou sera pas rebouché par quiconque.
Ouais, non, effectivement. Et puis, bah, je pense qu'on saura la prochaine pause de l'équipe nationale. Donc, on rappelle, tu l'as dit, hein, mais ce soir, Fribourg, jeudi à Zouk, samedi contre Davos, mercredi à Davos, jeudi à Ambry, puis samedi suivant contre Ajoie. Je pense qu'on saura après le match contre Ajoie si Genève va plutôt prétendre au top 6 ou va prétendre au top 8. On aura un bon indicateur. Ce Genève Servette, d'ailleurs, je vais te serrer la main, Nico, puisque Tyler Beck a effectivement quitté le Genève Servette avant la fin du mois de novembre. Tu l'avais dit, tu l'avais annoncé, selon toi, que, alors il y a des rumeurs qui commençaient à circuler à gauche, à droite. Ouais,
je l'avais annoncé.
Oui, tu l'avais annoncé avant, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'entends parler de Tyler Beck, par exemple, qui se plaint de son temps de jeu, ce qui est normal. Voilà, Tyler Beck, on le sait depuis hier, officiellement quitté le Genève Servette pour rejoindre la Sibérie et Novosibirsk, je crois, pour dire le nom du club en complet. Tyler Beck qui n'aura donc jamais convaincu et qui a convaincu en Russie, puisque apparemment les fans sont très contents de son retour. Guess Uzbek a même écrit le club, mais ça, voilà, on l'aurait fait nous. Donc autant saluer quand c'est un autre
absolument
club qui le fait. Mais voilà, Tyler Beck est parti. Genève Servette arrive ce soir avec 5 ou 6 étrangers. Petit suspense si vous n'avez pas suivi la composition d'avant-match.
Ouais, on va laisser le suspense effectivement pour finir le sujet, pour clore le sujet Tyler Beck. Justement, dans les colonnes du Blick, c'est Greg Bo qui a écrit, voilà, on savait et on se posait la question. Qui est toujours dehors. On se posait la question de savoir si Tyler Beck, si son style à Tyler Beck allait matcher avec le championnat de Suisse. Manifestement pas. Alors, il est tombé dans une équipe avec des étrangers, des attaquants étrangers qui tombent bien.
Et il a été annoncé, il faut quand même le préciser, il a été signé avant Routa et avant Pouliouyar.
Et avant Pouliouyar, oui. Ouais. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et ben, les quelques matchs où il a pu jouer, alors évidemment, il était en manque de rythme, donc ça ne l'a pas aidé. Mais il n'a jamais su saisir sa chance.
Voilà.
Et il était sur la glace à Lausanne pour le 11, il était sur la glace à Bienne pour le 8, il était sur la glace à Port-en-Trouy pour le 0. Enfin, voilà. Et c'est pas parce qu'il était là que je le savais, t'as pris des rousses.
Non, parce qu'il était aussi sur la glace lors de la victoire à Zurich.
Voilà, exactement. Mais même lors de la victoire à Zurich, qui était un match abouti, Tyler Beck, on n'avait pas beaucoup.
6 matchs, 0 points.
Ben voilà. Ben, lui, on peut lui dire merci pour rien, voilà. à part le fait qu'il était à l'entraînement et qu'il se donnait tout ce qu'il pouvait. Moi, je reste convaincu que c'est un joueur qui a du potentiel, mais ça n'a pas matché. Voilà, c'est pas grave. Il y a pas.
C'est pas le premier.
C'est des choses qui arrivent. Effectivement, ces dernières saisons, on n'a pas eu trop l'habitude.
Ouais.
Mais rappelons-nous. Voilà.
Rappelons-nous de certains joueurs qui ont joué la saison complète, hein, qui étaient peut-être moins bons que Beck, mais qui ont fait une saison complète en tant qu'étranger.
Bon, voilà, petite erreur de casting. Finalement, ça a duré une demi-saison. Julien Servette payera plus son salaire parce qu'il a un nouveau club. Bah voilà. Bon, ouais. Ça fait partie des risques. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y aura un 7e étranger selon ce que Bardiaouchi a laissé sous-entendre. Bah, il cherche, mais c'est pas le seul à chercher et ça n'a pas l'air si simple de trouver un vrai renfort. Surtout que c'est un renfort à qui il va falloir faire accepter le rôle de 7e, parce que va lui dire oui, pas de souci, on t'assure du temps de jeu en attaque. Bah non, on pourra pas lui dire ça. Donc à voir. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer.
Ouais, effectivement. Et est-ce que Genève Servette a besoin en l'état d'un 7e étranger? Peut-être pas forcément. En fait, on en discutera entre vous. On en a déjà parlé dans le précédent podcast que je vous invite à aller écouter. Allez, on va passer aux compositions d'équipe. Nico, je te laisserai faire celle du GSHC. Je vais faire celle de Fribourg dans les buts. Du côté de Fribourg-Gotteron, c'est l'éternel Reto Berra qui, on rappelle, dispute ses derniers matchs avec Fribourg parce qu'il partira à Kloten la saison prochaine. Reto Berra, c'est 93,8% d'arrêt, toujours aussi efficace. Reto Berra, malgré l'âge qui passe, il sera suppléé au besoin par Loïc et Gallet. En défense, Maximilian Strelet avec Andrea Glauser, Michael Kapla avec Yannick Radgeb qui était annoncé absent par la Liberté, qui est quand même bien présent ce soir. De même que Patrick Nemeth et Ludwig Johnson sont là, tout autant que Simon Seiler et Benoît Yecker. En attaque, Jacob Delarose avec Marcus Sorensen et Sandro Schmid, le top scorer de cette formation fribourgeoise. Sandro Schmid qui est à 23 points en 26 matchs et il est à ex aequo avec Marcus Sorensen qui est à 23 points en 22 matchs et qui est sur la même ligne que lui en centre de la deuxième ligne. Alors vous entendez peut-être la Poya avec la boîte à musique derrière nous. Henrik Borgström avec Christophe Berchi qui va disputer son 438e match de suite dans le championnat. Ce n'est pas un record mais c'est quand même une sacrée marque, et pour le record je salue le Fribourg Nachrichten qui en a fait un article. Le record, si j'ai bien lu, c'est Ivo Ruttemann avec 523 matchs de suite disputés dans le championnat de Suisse.
Ouais, alors j'avais Ruttemann mais j'avais pas le nom. Ouais.
Pour la petite anecdote, le record en NHL c'est Phil Kessel avec 1018 matchs. Ouais. Voilà, c'est encore un autre niveau, même s'il y a plus de matchs de suite. Au centre de la troisième ligne, Samuel Valzer avec Nathan Marchon et l'éternel capitaine Julien Sprunger. Enfin Kevin Nicolet avec Jérémy Gerber et Kevin Etter pour la quatrième ligne. Du côté des blessés, deux blessés donc annoncés et qui le sont bien, c'est Atiu Biasca et Lucas Wallmark. Julien Rod, le petit frère de Noah, est lui surnuméré, alors que Lucas Edlund est en Swiss League pour cette équipe entraînée par Roger Rönnberg et qui aura comme assistant encore pour aujourd'hui André Bikoff, puisque l'habituel assistant Lars Rönnberger est malade. C'est donc celui qui a son maillot tout fraîchement retiré du côté juste là sur notre droite un petit peu plus loin qui sera assistant. André Bikoff, lui qui a joué avec quasiment les trois quarts de l'équipe, ça va lui faire bizarre. Voilà pour cette formation de Fribourg Gottéron.
Ouais, alors que côté Genève Servette, on pourrait la faire courte en disant que c'est la même équipe que celle qui était alignée à Rapperswil et c'est la même équipe que celle qui était aligné contre Zurich à un changement près, c'est le retour dans les buts de Stéphane Charlin. Logiquement, hein, j'ai l'impression que Stéphane Charlin, on sait que c'est le numéro 1 et c'est possible qu'avec cet enchaînement, un match tous les deux jours cette semaine, possiblement jouera les trois matchs, mais ça c'est de la musique d'avenir. En tout cas, Charlin.
Ouais. Après le match de Maillard, je me demande s'il va pas en faire deux sur trois. Il va chaque fois faire les deux de semaine et puis le dernier sera pour Robert. On verra ça samedi.
À voir. En tout cas, ce soir, c'est bien Charlin qui sera dans les buts suppléés au besoin par Robert Maillard. En défense, on va retrouver les paires habituelles, à savoir Sari Harvi, Bernie, Chanton et Ruta. Donc Ruta qui est bien sur la glace ce soir, on se rappelle qu'il a joué 19 secondes lors du match contre Zurich. Il a pris un coup, il est sorti en râlant et on l'a pas revu. Il a pris un coup, donc il n'était pas spécialement content. Il est pas revenu, par contre il sera bien et là ce soir, et c'est une super bonne nouvelle pour la défense genevoise qu'on a bien besoin. Roger Carrère et Simon Lecoul toujours associés sur la troisième paire de défense, et Eric Steller et Dave Souter qui font la paire sur la quatrième paire. On attaque sans surprise, on va retrouver la ligne des Finlandais avec Granlund, Manninen et Puljujärvi, sachant que c'est toujours Markus Granlund qui portera le casque de top scorer. Josh Joris entouré par Jimmy Lizzy et Tim Boson, cette ligne qui nous a fait ô combien plaisir lors des deux derniers matchs disputés la semaine passée. Marc-Antoine Poulet, Vincent Praplon et Natalissus qui nous ont fait nettement moins plaisir et de qui on attend, en tout cas à titre personnel, j'attends beaucoup, j'attends une réaction ou une action même peut-être de cette ligne. Et enfin la quatrième avec Mathieu Verboon, Marco Miranda et Noah Rod, les absents, les éternels absent malheureusement Luca Ishii et Tanner Richard, alors qu'on nous annonce toujours évidemment Jason Hexon surnuméraire. Non, il n'a toujours pas son passeport pour ceux qui se posent la question, et non, on ne sait pas quand il va le recevoir. Petite piécette sur le 23 décembre ou une date par là autour, la dernière session où il y a les naturalisations qui sont validées du côté de Berne, à voir. En tout cas, pour l'instant il n'est pas là et je ne crois pas qu'il ait cité les arbitres, donc je vais le faire. Ce seront messieurs Ebeizen et Ruprecht assisté par messieurs Burgi et Niemi. Voilà.
Allez, petit quiz pour toi Nico. On sait que genre, on dit souvent que ça dépend beaucoup de ces étrangers. On regrette les buteurs suisses hormis peut-être Tim Boson et Simon Lecoul qui sont à 10 et 9 buts respectivement. Mais sais-tu à quelle place, si on prend le classement du nombre de buts marqués par des étrangers, le pourcentage de buts marqués par des étrangers, est-ce que tu sais où Genève se situe dans la ligue? Donc évidemment l'équipe la plus haute est l'équipe dont les étrangers marquent le plus de buts en pourcentage.
C'est un coup 6ème.
8ème, ouais, juste au-dessus de la moyenne de la ligue. Genève Servette est à 46,05% de buts marqués par les étrangers, moins d'un but sur deux. En revanche, et ça, je pense que grâce en grande partie à Simon Lecoultre, Genève Servette est l'équipe où les défenseurs marquent le plus, enfin l'équipe qui est en pourcentage le plus haut nombre de buts marqués par les défenseurs, 23,6%. On a presque donc un but sur quatre marqué par des défenseurs. Je pense quasiment tous Lecoultre. Il y a Chanton qu'on a un, il y avait le Coultre, on a 9. Et l'équipe qu'on a le moins, pour vous dire, alors c'est pas Fribourg, mais c'est Bienne, qu'on a 8% des buts sont marqués par des défenseurs du côté du HC Bienne. Voilà pour cette équipe de Genève Servette. Fribourg-Gotteron est totalement dans la moyenne. Par contre, Fribourg-Gotteron déchire tout en box-play. Et ça, Genève Servette aura fort à faire, parce que le power play, c'est pas ce qui tourne le mieux ces derniers temps.
Non, même si c'est le troisième de la ligue, par contre, le box-play de Fribourg, c'est 89%. C'est énorme. Hein.
C'est gigantesque.
Et tutoyer les 90% en box-play, alors on dit qu'en principe, moins de 80, c'est pas terrible. Et Genève Servette n'y est d'ailleurs pas à 80 pour l'instant. Par contre, plus que 86, 87, ça commence à faire vraiment beaucoup. Déjà 85, tu tournes vraiment bien. 89, c'est gigantesque. C'est-à-dire que 9 fois sur 10, quand ils sont pénalisés, ils prennent pas de but.
Et c'est la cinquième équipe la plus pénalisée de l'équipe, de la ligue. Donc c'est même pas une équipe qui prend pas de pénalité.
C'est pas un petit échantillon, c'est ça. Donc le système mis en place en box play, alors je l'ai évidemment pas analysé, parce que on le fait déjà pas pour celui forcément de Genève Servette, donc on va pas le faire pour celui de Fribourg. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres ne montent pas. Le box play de Fribourg est extrêmement efficace. Le power play, je vais le voir, on sait de quoi il est capable. Il était très mauvais il y a un mois. Il est nettement mieux depuis. On l'a dit, c'est le troisième de la ligue. Mais ce soir, il va vraiment falloir, s'il y a des opportunités, il va falloir bondir dessus. Mais ça va pas être simple.
Allez, tout est prêt pour ce match. Fribourg-Gotteron contre Genève Servette. C'est le deuxième match ici de la saison. Genève Servette, Fribourg-Gotteron, l'engagement remporté par les Genevois. Et Nico Puchat, au commentaire.
Un engagement remporté par Mathieu Verboul, la quatrième ligne. L'idée d'entrée là, par Ville-Peltonen. Alors qu'il y aurait pu avoir une première faute sifflée, même si Verboul est peut-être tombé trop facilement. En tout cas, les Genevois sont en zone d'attaque. Le puck ne sera pas conservé dans cette zone d'attaque et c'est récupéré par Sandro Schmidt qui peut envoyer une longue transversale. C'est bien joué là pour un homme qui prend un petit peu de la vitesse. C'est Andrea Glauser. Glauser qui peut jouer avec Delarose. Glauser en zone d'attaque qui va revenir un peu sur ses pas. Il est contré par Marco Miranda. Les Genevois qui, pour la première fois, font face à l'offensive fribourgeoise, notamment menée par Sandro Schmidt, le top scorer, qui a prolongé récemment son contrat. C'était juste avant qu'on vienne ici pour la première fois, si je ne fais.
Non, c'était après. C'était il y a quelques temps.
Non, mais on avait parlé du fait qu'ils avaient fait une banderole pour lui.
Oui, mais tout le monde appelait de ses voeux la prolongation, mais l'officialisation de la prolongation a été faite il y a 2 semaines à peu près. Ah, je suis certain de ça. Me regarde pas comme ça, Nico. J'en suis sûr.
2 semaines.
Ouais, ou peut-être 3 semaines. Va voir. Je commente avec Yann Dort qui rentre en zone. Peut-être trois semaines. Je te l'accorde. Le puck qui est sur la gauche maintenant. Yann Dort qui va passer derrière les buts et ça va revenir sur Kapla. Kapla sur la droite qui va finalement pousser le puck. Ça va être récupéré par les Fribourgeois. Granlund qui va pas réussir à récupérer le puck et qui va perdre sa canne. Et il y aura 2 minutes de pénalité. Est-ce que c'est contre un Genevois ou contre un Fribourgeois? C'est contre Marcus Granlund. Très mauvaise entrée en matière pour le Genève Servette qui, après 1 minute 19, concède une pénalité un peu stupide de Marcus Granlund. Et on va avoir l'occasion de voir si le boxplay genevois va réussir ce soir à tenir tête au boxplay fribourgeois. Mais en attendant, le powerplay fribourgeois, lui, est le quatrième de la ligue, 23,23% d'efficacité. Est-ce que tu as trouvé l'info?
Ouais, c'était il y a un mois.
Ouais, voilà, 3 semaines, 1 mois, mais c'était pas.
T'as commencé par 2 semaines.
Oui, mais c'était un peu plus tard. Mais c'était en tout cas après qu'on
s'est gagné. C'était une semaine après le.
Ouais. Le mais match la ici. Liberté avait fait un édito pour qu'il prolonge. Les Ultras avaient fait une banderole pour qu'il prolonge, mais ça n'avait pas encore été fait.
Avec un engagement gagné, là, par les fribourgeois qui vont donc évoluer, on l'a dit, en powerplay avec Sorensen, il passe pour Schmidt. Justement, Schmidt, un tir, ça passe au-dessus des buts de Charlin, le petit. Il est en zone, non, il y a le possibilité contre-attaque pour Genève Servette. Ils sont deux contre un. C'est Vizy, Joris. Ah, la passe de Joris un peu trop longue pour Jimmy Vizy. Dommage, parce qu'alors là, il y avait un boulevard pour Vizy qui a été servi un peu trop en profondeur la part de Josh Joris. Pas très bien joué pour la peine de Joris et ça va donner l'opportunité aux Fribourgeois de tenter de s'installer. Mais bon travail de la défense genevoise qui peut à nouveau se dégager. Kapla va récupérer le puck pour Fribourg, mais à l'extérieur de la zone. Et ça va obliger Borglund, j'ai un doute. Ça reviendra, c'est le numéro 21 fribourgeois. Schmidt qui peut décaler pour Delarose. Delarose qui a un petit peu d'espace devant lui. Delarose pour Kapla. Kapla qui ne peut pas tirer, qui rend à Delarose sur la gauche de l'attaque fribourgeoise. Delarose pour Kapla. Kapla pour Sorensen qui rend à Kapla à la bleue. Kapla qui recherche Sorensen. Les deux autres qui se prennent mal. Bâton sur le puck qui revient quand même. Ça arrive sur Borgström et le.
Eh ben le football. Ah ouais, j'étais persuadé que Charlin allait l'avoir. Ouais. C'est bien Borgström le 21.
Ouais, c'est bien Borgström et c'est Borgström qui marque entre les jambes de Stéphane Charlin. Oui, il était sur son déplacement. Mais pas tout blanc, j'ai eu l'impression quand même, Stéphane Charlin.
Est-ce que c'est entre les jambes ou sous le bras?
Ouais, l'un ou l'autre.
Ouais.
À mon avis, celui-là, il est un petit peu pour ça. C'est pas. Moi, j'ai envie de dire que c'est. En tout cas, comme ça, on dirait que j'ai envie de dire que c'est une petite boulette quand même.
Ouais, mais boulette, je sais pas, peut-être qu'il est. Ouais, après le mouvement, la passe de Sorensen, passeur est nickel parce que Charlotte doit descendre sur ses appuis et il le prend sous le bras.
Il le prend sous le bras. Pour moi, il a pas, celui-là, il ne doit pas l'encaisser parce que le tir, il est quand même hyper centré. Parce que c'est Charlotte qui se la repousse dedans. Ouais. On va dire un soft goal, c'est pas énorme boulette, mais pour moi, il est évitable. Un Stéphane Charlin, comme on l'a vu ces dernières semaines.
Et on va aller revoir la vidéo pour un éventuel hors-jeu.
Ouais, donc il y a eu un coup de challenge demandé par. Ouais, alors c'est sur la.
Par Mathieu Fernandez et par.
Mathieu Fernandez qui avait fait la même chose à Ambry après très peu de temps et on se rappelle de la suite. Attention parce que ça peut déjà être un tournant. Hein.
Ouais.
2 minutes 17 de jeu. Fribourg qui ouvre le score.
Pourquoi est-ce qu'on a un hors-jeu?
Non, mais c'est peut-être pas hors-jeu, c'est peut-être une obstruction sur le gardien.
Non, mais ce sont les juges de ligne qui vont revoir la vidéo. Alors, si c'est les juges de ligne, c'est forcément pour hors-jeu.
C'est à long moment de l'entrée en zone.
Ouais.
Et effectivement, si on regarde le joueur qui est tout à droite.
Ah ouais, il faut être.
Ouais, alors à mon avis, on va de nouveau avoir un problème de.
Ouais, et de nouveau, on aura un problème de caméra parce que. Et ce sera la deuxième fois à Fribourg en une semaine. Parce que pour tout vous dire, pour Borström entre en zone avec le puck, il y a un joueur qui est contre la bande, devant le banc de pénalité occupé par Granlund, qui est dans la zone, qui a peut-être un patin juste au-dessus. Mais le problème, c'est que le top scorer Sandro Schmid masque le puck et donc on ne voit pas le puck.
Ouais, donc...
Même si les arbitres savent qu'il. C'était arrivé pour jouer. Servette au Vernet
contre
Fribourg, exact. Même si les arbitres savent qu'ils sont en train de faire faux, s'ils n'ont pas les images qui attestent que le puck est bien rentré à tel moment, eh bien ils ne pourront pas invalider leur décision qui est but sur la glace. Ouais, ça va être tendu encore cette histoire.
Ouais, mais je pense qu'ils vont pas pouvoir l'annuler pour les raisons que tu viens de citer.
Et on rappelle que la Ligue dit que ça coûte trop cher de mettre des caméras dans les lignes bleues.
Ouais, voilà. Donc,
en 2025.
Dans les bandes sur les lignes bleues, effectivement. Bon, les arbitres ils prennent quand même pas mal de temps et de nouveau ils risquent de se retrouver dans cette situation où ils savent que. Mais ils peuvent pas le prouver par les images.
Alors en fait, dire que le joueur est dans la zone, à mon avis, oui. Mais alors dire que le puck rentre à tel ou tel moment,
ça,
impossible.
C'est compliqué. Donc voilà, on rappelle, hein, si le but est validé, Servette va écoper de deux nouvelles minutes de pénalité. Et comme je l'ai dit avant, hein, c'est le même scénario qu'à Ambry. Alors une minute plus tard, parce qu'Ambry c'était vraiment très très tôt dans le match, c'était après une minute de jeu, là ça en fait un peu plus que deux. Mais ça peut être un tournant du match, parce que si le but est annulé, la décision est bonne et puis on repart à 0-0, tout va bien. Si à goal et que derrière tu reprends deux minutes et que potentiellement tu reprends un but derrière, ça fait 2-0 après 4 minutes de jeu et là ça change tout. Encore une fois, alors c'est le rôle là, de Mathieu Fernandez de prendre ce genre de décision. Enfin,
les arbitres ont pris leur décision, ils vont d'abord la communiquer aux arbitres principaux.
Ouais.
Et à mon avis, ils ne peuvent pas annuler. Et donc, alors on va voir la décision des arbitres, la discussion est prise. On retourne voir la vidéo. Alors, est-ce qu'on retourne voir la vidéo parce qu'on n'est pas sûr, ou est-ce qu'on retourne voir la vidéo pour savoir
pas goal.
Goal. Alors, jeu est validé. Et on voit Marc Gauthier et Mathieu Fernandez qui se check. Alors bien joué pour le coup. Marcus Granlund retourne s'asseoir. 1 minute 2 de pénalité encore à jouer. Ouais, bah chapeau Mathieu Fernandez, il fallait le voir celui-là.
Ouais, encore une fois, hein, c'est son boulot, mais c'est qui tout double. Hein. La décision de prendre ce coach challenge, elle peut être lourde de conséquences. Ça n'a pas fonctionné en Ambry, ça a fonctionné ce soir. Bien joué, voilà, tout simplement, parce que faut oser. Tu sais que tu as quand même presque pas tout à fait le destin du match, mais en tout cas le destin du début de match en team, hein, quand tu dis à ton banc de. Ouais. Parce qu'on rappelle, hein, c'est Mathieu Fernandez qui communique au micro
à Pierre Allard
qui lui fait signe à l'arbitre du coach challenge. Donc bien joué, Mathieu Fernandez, et donc on repart à 5-4 pour Fribourg avec encore 1 minute 15 à jouer dans cette situation de jeu.
Ouais, on va repartir. Du coup, Charlin est tout blanc sur l'action.
Absolument.
Qui va être sur Sandro Schmid qui va apporter ce puck maintenant avec Sorensen. Sorensen qui va donner sur la gauche le puck qui est récupéré par Schmid et les Fribourgeois qui vont installer leur jeu de puissance et les Servettiens qui vont pouvoir récupérer avec Ruta. Ruta qui va donner sur la droite. Encore 59 secondes de situation spéciale. Ça va arriver maintenant sur Reto Berra et le puck qui va arriver sur la gauche. Gauche avec une mauvaise relance d'un Fribourgeois. Qui était-ce là qui a totalement manqué son affaire? C'était Sorensen. Je ne vois qu'il a juste pas réussi à récupérer ce puck qui traînait devant les buts de Reto Berra. Kapla qui va porter ce puck, qui va donner derrière lui maintenant pour Schmid, le puck qui va arriver derrière les buts de Stéphane Charlin. Schmid qui va essayer d'aller récupérer et Sarajevi qui sera derrière les buts en premier. Sorensen qui tombe, les Servettiens qui peuvent se dégager par l'entremise de Pouliouli-Hervi. Dans 30 secondes Granlund sera de retour sur la glace et dans 17 minutes le premier tiers sera terminé. Et donc toujours 0-0 si vous nous rejoignez à l'instant et si vous vous demandez pourquoi à un moment vous avez cru comprendre que c'était 1-0. 0-0, c'est parce que le but fribourgeois a été annulé pour hors jeu. Le puck qui est sur un fribourgeois qui va prolonger derrière les buts de Charlin, qui manque un peu sa sortie, mais le puck va quand même être dégagé par un Servette. Tiens, derrière les buts de Reto Berra, encore 8 secondes avant la fin de cette première situation spéciale de la soirée.
Ouais, Jonas Servette qui aura tenu tant bien que mal là, avec malgré cette petite frayeur, mais Fribourg qui n'aura pas trouvé la faille après, parce que alors, le Buxley, je le vois, était très bon. Là, il y a peut-être une opportunité. Ah, dommage, Granlund qui a juste pas essayé de récupérer. Praplan qui a tenté de jouer au plus malin là, le long de la bande, qui n'y est pas arrivé non plus. Bon travail de la défense, je le vois, pour récupérer Stock. Praplan, il y a peut-être une opportunité en contre là pour Joris. Joris qui peut. Non, Pouliot, pardon, Pouliot. Oh, alors, Pouliot qui rend le puck à un défenseur fribourgeois. Pas très bien joué de décidément, je vais y arriver, hein, de Marc-Antoine Pouliot qui est pas dans la meilleure période de sa vie. Le puck est récupéré par des fribourgeois avec Christophe Berchi et notamment Julien Schmoulier. Le puck derrière le but avec Radgeb qui se fait un petit peu peur. Là, il est mis sous pression par Marc-Antoine Pouliot. Les jeunes voix qui sont très hauts là et qui n'hésitent pas à tenter de récupérer le puck. Schneller qui peut l'envoyer derrière le but fribourgeois. Pouliot, alors bon travail cette fois de Pouliot. Il faut aussi le dire quand c'est bien. Le puck qui est récupéré par les jeunes voix. Les jeunes voix avec qui est-ce ? C'est le Coultre là-bas, il me semble.
Inatavissus.
Bah, j'ai vu un zéro. Ouais, voilà, j'ai essayé.
Il n'y a plus la grille maintenant.
Il avait pas grand-chose à faire là-bas. Le Coultre, c'était pour ça que c'était pas lui. Allez, Schneller pour la relance. On est revenu devant le but de Stéphane Charlin. Schneller, la relance un peu compliquée pour Joris. On rend le puck à Fribourg et les joueurs locaux qui vont pouvoir repartir avec Ludwig Johnson.
Johnson qui va donner à. Pas Johnson, mais à. Johnson, ouais, c'était Johnson qui avait le puck, qui récupère maintenant, qui rentre en zone offensive. Et Routac sera le premier. Le puck est derrière les buts de Stéphane Charlin sur la canne de Sandro Schmid, le top scorer fribourgeois qui est à la lutte face au défenseur tchèque de Genève Servette, Yann Routa. Le puck qui va revenir sur Tim Beson qui va pouvoir donner sur la gauche pour Chanton. Il y a Vizy qui se proposait en contre, on a cherché Joris plutôt et on s'est manqué. Dégagement interdit concédé par le GSHC, l'occasion d'aller voir ce qui se passe aux autres patinoires, parce qu'il y a 5 autres matchs au programme. Cloton a déjà ouvert la marque face à Bienne, Rapperswil, Lausanne, c'est 1 partout. Zurich Ambry 0-0, Zug Bern 0-0 également, et Davos a ouvert le score face à Joie. À noter que Bienne Cloton, c'est là que le trou va se creuser, puisque Cloton et Bienne sont respectivement 10 et 11 avec le même nombre de points que Langnau 9e. Donc ça ferait déjà encore plus d'équipes larguées. Le résultat nous arrange ce soir. Engagement sur la droite, début de Stéphane Charlin remporté par Jean Servette, et Vizy qui va tenter de relancer l'essai.
Ouais, avec toujours ce petit plaisir de voir Berne 13e potentiellement.
Oui.
Et je pense que pour une fois je partage l'avis des 9000 personnes qui m'entourent, ouais. Ce qui est quand même assez rare pour être signalé pendant ce temps-là. Benoît Yecker tente de relancer l'offensive pour Fribourg. Allons puck directement sur la canne de Charlin. Charlin qui peut jouer avec Sarri-Hervy, mais attention, Sarri-Hervy qui se fait contrer derrière son propre but. Les fribourgeois agressifs à leur tour en forecheck. Là, attention à ce puck qui va revenir devant le but. Charlin qui peut dévier et Bernier qui tente de récupérer face à un attaquant fribourgeois. Les fribourgeois qui insistent un petit peu là au moment où les IG arrivent dans le parquage avec quelques minutes de retard. Mais alors, vu le temps qu'on a mis pour venir à Fribourg,
on a mis 2h50.
Sachant qu'ils sont partis après nous et qu'ils étaient en quart, forcément, c'était encore un peu plus compliqué. Les fribourgeois pendant ce temps-là qui probablement n'ont pas cette anecdote en tête et qui peuvent repartir depuis l'arrière avec André Glauser. Glauser qui cherchait une longue relance sur le centre pour un de ses coéquipiers, c'est mal joué et ça va repartir pour Pouliot-Hervy. Pouliot-Hervy qui a vu Granlund. C'était compliqué quand même cette passe pour Granlund, c'était ambitieux, on va dire. Granlund qui aurait dû accélérer, il aurait dû prendre un champignon dans Mario Kart, c'est pour une référence actuelle. Ça n'a pas fonctionné. Les jeunes voient qu'ils sont en position du puck avec le Coultre. Un tir de le Coultre, une déviation, ça passe au-dessus des buts de Reto Berra. C'est récupéré par Marcus Granlund sur la droite. Granlund séché là dans la bande de manière correcte par un défenseur fribourgeois. Il y a Julien Schmoulier qui vient piocher dans le long de la bande. Ce puck qui est dans la zone qu'on voit pas très bien là, juste devant le banc fribourgeois. Ce puck qui est extrêmement mêlé par Carrère qui a un petit peu d'espace sur la droite pour le Coultre. Le Coultre qui tire, arrêt de Reto Berra. Alors que ça continue à brasser un petit peu là entre Manninen et Schmoulier. Pouliot-Hervy qui peut récupérer le puck. Pouliot-Hervy qui a un petit peu d'espace. Pouliot-Hervy qui va chercher une solution. Il s'arrête derrière le but. Il fait un demi-tour pour Granlund. Le tir de Granlund contré par Marchon. Les fribourgeois, les jeunes voient toujours en position du puck. Avec le nouveau tir de Pouliot-Hervy. Les Finlandais, une nouvelle fois là, qui amène le danger sur les buts fribourgeois. Pour la première fois, avec Schneller qui arrive lancé. Schneller qui n'a pas pu prendre le tir, mais Schneller qui déborde la défense fribourgeoise par la gauche. Schneller qui s'arrête, qui va revenir à la bleue.
Oui.
Pour un homme qui l'attendait, c'était Manninen qui roule. Schneller, c'est bien joué. Schneller, il a un petit peu d'espace. Il s'ouvre le chemin du but. Dommage, il rate le puck au moment de son tir. Schneller qui peut revenir pour des sous-terres. Non, le puck qui va être récupéré par les fribourgeois. Schmoulier qui tente une longue relance. Attention à sous-terre de ne pas se faire avoir dans son dos, parce que c'est un fribourgeois qui a bien senti le coup. En l'occurrence, Nathan Marchon, les deux hommes qui ont joué ensemble de plusieurs années du côté de Fribourg, sous-terre et Marchon. Mais Genève Servette qui peut récupérer. Et un bon puck pour Marc-Antoine Pouliot.
Marc-Antoine Pouliot qui rentre en zone proprement là, qui donne pour Chanton. Pour Pouliot, le tir Pouliot qui va passer sur la droite. droite des buts qui avait été contré de toute manière. Chanton en position d'attaquant là, qui était à la lutte face à Jérémy Gerbert, Ignata Vissus et Praplon qui va tenter d'aller mettre la pression. Il va être plus rapide que Yannick Radgame, en tout cas Vincent Praplon. Le puck va quand même sortir de la zone défensive fribourgeoise. Yann Routa qui va récupérer sur la droite un puck pour Pouliot. Ça c'est bien joué. Pouliot, j'ai un petit numéro. Pouliot du revers, dommage. Tout était juste du côté de Pouliot. Il a juste manqué de force au moment du tir, mais le reste était joli pour Routa qui va shooter la déviation manquée de Vincent Praplon. Allez, cette ligne là dont on attend plus, hein, on l'a dit avant, pourquoi va nous faire mentir dès ce soir. Mais attention à la contre-attaque fribourgeoise. Jérémy Gerbert qui rentre dans la zone offensive fribourgeoise maintenant, collé contre la bande côté gauche. On est à la lutte. Routa, Gerbert. Gerbert qui est en train de faire un gros câlin à la nuque de Routa, mais pas de faute, pas de quoi faire une faute dans cette action. Le puck qui est sur la droite, collé dans la bande, ça va revenir maintenant sur Giancarlo Chanton. On joue déjà depuis plus de 8 minutes 20 pour être précis, et toujours 0-0, même si Genève s'arrête à frôler l'ouverture du score. Enfin, Fribourg a frôlé l'ouverture du score, mais son but a justement été annulé pour une position de hors-jeu. On va repartir des bases arrières avec Patrick Nemeth. Nemeth, le puck qui va arriver sur la gauche des buts de Stéphane Charlin, et c'est Tim Berny qui va récupérer. On est en train de lutter dans l'arrondi sur la gauche des buts de Charlin. Il y a Berny, Schmid, Joris et Delarose qui sont en train de se lutter. On est là le début d'une mauvaise blague, mais je vous jure, c'en est pas une. Le puck qui est en train de qui est récupéré par les Fribourgeois sur la droite. Attention, le puck qui est sur Sorensen dans le slot là, c'est bien placé. Et finalement, le puck va sortir de la zone et Genève Servette va essayer de récupérer le puck. Ce sont toujours les Fribourgeois dans leur zone qui sont en position de la rondelle à 11 minutes de la fin de ce tiers.
Ouais, et Tim Bezon qui a été faire le forecheck là, ça a failli marcher face à Ludwig Johnson, le défenseur fribourgeois. Mais Fribourg qui va pouvoir repartir avec Sorensen. Mais Sorensen qui se rate, et il y a une possibilité de contre pour Genève Servette avec Miranda qui peut jouer pour Bezon. Il me semble un tir arrêté là, c'était un tir de Verbe, il n'est pas de Bezon. Et Fribourg qui va pouvoir repartir. Sorensen qui trouve du soutien avec Schmidt, un tir de Schmidt. L'arrêt de Stéphane Charlin. Les Fribourgeois qui peuvent récupérer ce puck en zone offensive avec Seiler et les Fribourgeois. Seiler, oui, non, c'est ça.
Seiler, le 5.
Ouais, Seiler, ouais, j'ai eu un blanc tout d'un coup. Noir dans l'arrondi sur la gauche qui travaille face à Seiler. Justement, les deux hommes qui s'empoignent, ils sont aidés par Miranda et par Sandro Schmidt. Avantage à Fribourg. Fribourg qui va repartir avec Berti. Berti qui voit sa relance contrée par un Roger Carrère qui a fait l'effort en zone offensive. Bien joué de Roger Carrère, même si finalement Christophe Berti va pouvoir repartir avec le puck. On a bientôt joué la moitié de ce premier tiers, toujours 0-0.
Ouais, et le puck qui arrive sur Stéphane Charlin maintenant. Et la première moitié du premier tiers à jouer maintenant. 9 minutes 59 à jouer. Pouliarvi qui rentre dans la zone avec de la vitesse. Pouliarvi qui, mine de rien, ça a plus été sur la. Il fallait, alors j'irai voir exactement depuis quand, mais n'a plus marqué en tout cas depuis un petit moment, ça c'est certain. De même que Marcus Granlund, Maninen, enfin depuis un certain temps, tout est relatif. Hein. Si vous prenez Praplan, c'est plus long que Marcus Granlund. Par exemple, le puck qui est sur la gauche avec Eric Schneller. Schneller qui a cherché la transversale sur Maninen, c'est manqué. Le puck va sortir de la surface de jeu. Ouais, les Finlandais qui ne sont évidemment pas en crise, hein. Ce mot-là serait beaucoup trop fort. Mais c'est plutôt la deuxième ligne, Joris Visi-Boson, qui tourne actuellement. Et on va pas se plaindre d'avoir deux lignes qui peuvent marquer des buts.
Non, effectivement, on a assez constaté il y a quelques temps que seuls les Finlandais étaient capables de marquer. Là, effectivement, ils le font un petit peu moins souvent. Et du coup, ils ont été relayés de temps en temps par la quatrième ligne, surtout enfin, avec Mathieu Verboon, hein, qui a marqué notamment un but important à Rapi. Et sinon, c'est vrai que c'est cette deuxième ligne, Jimmy Visi, Josh Joris et Tim Bezon, qui fait la différence. Alors que la ligne qui est pour l'instant sur la glace doit faire beaucoup plus. C'est donc la troisième avec Pouliot à l'engagement, qui est toujours accompagné par Praplan et Ignata Vissus. Pouliot qui remporte cet engagement. Le puck arrive à Routa. Routa qui adresse un tir directement sur Reto Berra. Bon tir là de Yann Routa. Il a profité du trafic devant Reto Berra pour tenter d'alerter le danger. Ça n'a pas fonctionné. Ça comptera comme un tir. Alors que sur les autres patinoires, on va parler de là où ça bouge. Lausanne met 2-1 du côté de Rapi. Davos mène déjà 2-0 face à Ajoie. Et Zug a ouvert le score face à Berne. C'est 1-0. Il n'y a plus que entre Zurich et Ambry et entre Fribourg et Genève Servette que le score n'a pas évolué, alors que Pouliot remporte un nouvel engagement. Pouliot qui peut jouer avec Praplan qui fait mine de les aider à lui, qui finalement fait un petit tour. Praplan qui refait un petit tour, donne pour Routa à la mi du hors-jeu, un tir de Routa, un nouvel arrêt de Reto Berra, un peu moins sûr cette fois puisque Reto Berra a laissé le rebond, qui profite à Pouliot devant le but, c'était bien vu pour Vincent Praplan, mais qui n'avait pas la canne posée sur la glace, et c'est pourtant bien plus pratique quand on cherche à récupérer le puck. Routa qui peut jouer sur la droite. Routa, ouais, une passe un petit peu hésitante, ça va finir en dégagement interdit après 10 minutes 54 jouées dans ce premier tiers.
Ouais, et pour revenir sur vierge de but. Ouais, toujours vierge de but, effectivement. Et pour revenir sur Pouliot, il n'a plus fait de points depuis le 28 octobre, depuis la victoire contre Davos 7-0. Ça fait 6 matchs de suite qu'il n'a pas marqué de points en championnat de Suisse. Pour Jesse Pouliot, c'est une longue traversée du désert. Marcus Granlund, ses derniers points, c'était le 1er novembre. C'était contre Lugano lors de la défaite 6-2. Il avait mis un but, un assist. Mais voilà, c'est vrai que ça Deux matchs de suite pour Marcus Graslund sans faire de points, je ne sais pas si c'est beaucoup arrivé cette saison.
Non, effectivement. Puis alors pour lui, Harvey, les six matchs de suite, ça commence à faire beaucoup. Effectivement, alors même si dans le jeu, il produit beaucoup, mais c'est vrai qu'on l'attend, on a fait des scores. Pourquoi pas ce soir?
C'est la première fois que Graslund fait deux matchs de suite sans mettre deux points dans le championnat de Suisse. Vous saurez, le puck, attention, qui se va à droite. Je t'ai coupé, pardon. Mais
dans le championnat de Suisse.
Cette saison.
Ah oui,
désolé,
voilà,
pardon,
ah oui,
dans cette saison. Le puck qui va arriver sur Bernie, à mon avis, on n'en peut être loin le championnat de Suisse. Le puck qui va arriver sur Manninen qui va redonner maintenant à Yann Ruta qui va relancer plein axe et le puck va être récupéré par Yannick Radgiev au centre de la glace.
Ouais, Radgiev qui joue pour lui-même là dans l'arrondi, il va faire face à Eric Schneller qui remporte le débat physique face à Radgiev et c'est Ruta qui va pouvoir relancer. Ruta qui rejoue derrière lui pour celui que j'ai pris pour Eric Schneller mais qui en fait était Tim Bernie. Tim Bernie qui peut jouer sur sa droite pour Sarri-Harvey. Ouais, Sarri-Harvey qui élimine son défenseur, c'est bien joué. Sarri-Harvey qui va envoyer un puck à suivre derrière le but de Berra. Ça va arriver jusqu'au top de jeune voix Marcus Granlund. Sarri-Harvey qui récupère Sarri-Harvey pour Bernie. Bernie un tir, un nouvel arrêt du bloqueur là, de Reto Berra. Il était masqué par Marcus Granlund. Ça ne l'a pas empêché de faire l'arrêt. Les jeunes voix qui continuent leur travail avec Pouliou-Harvey dont on parlait. Pouliou-Harvey derrière le but qui tente de transmettre le puck à Granlund. Il y parvient. Granlund qui envoie de l'autre côté, change complètement le jeu pour Tim Bernie à l'auteur de la ligne bleue. Sur la droite de l'attaque genevoise, Bernie qui rend à Pouliou-Harvey, qui peut des cycling pour les genevois derrière les buts, ça ne fonctionne pas et ce puck qui va sortir, les fribourgeois qui vont juste pouvoir le dégager par l'entremise de Kevin Nicolet et on est reparti pour Genève-Servette depuis l'arrière des buts de Stéphane Charlin.
C'est arrivé 8 fois Marcus Granlund depuis son arrivée dans le championnat de Suisse en 2022-2023 de faire deux matchs sans marquer de points, autrement il a voilà, 8 fois c'est extrêmement peu hein. Soyons honnêtes, le puck est 3 fois depuis qu'il est 3 fois avec le meilleur genevois. Le puck qui est sur la gauche, Yann Dort qui va récupérer en zone offensive. Il va laisser derrière lui maintenant pour Berti. Berti qui a voulu runner à Dort directement, mais c'est manqué. On va pouvoir repartir sur la droite. Non, on va pas pouvoir repartir parce que Berti a pu récupérer. Borgström qui n'arrive pas à prendre le puck. Berti qui avait essayé de le servir. Il est servi, tiens, bien gêné hein, par le pressing de la ligne fribourgeoise. On va pouvoir repartir puisqu'un fribourgeois a pas du sac à canne. Ça a donné un peu d'espace à Vizic. Il reste en redagement central qui rentre dans la zone maintenant. Qui va donner sur la gauche le puck. La bonne transversale pour Joris qui était derrière le joueur et il n'a donc pas su l'exploiter. Vizic est en train de travailler là dans la bande et le puck qui va revenir sur sous terre. Le puck qui va être touché sur la droite et un puck joué trop haut. Mais j'arrive pas à savoir si c'est un genevois ou un fribourgeois. Et pour Jimmy Vizic, je vous invite à aller lire son interview dans le Blick, très sympa, où il dit notamment en bon américain qu'il était persuadé qu'en Suisse tout le monde parlait allemand.
Ouais, on lui a pas demandé s'il savait faire la différence entre la Suisse et la Suède, mais je suis pas sûr. Hein.
Mon ami, il a appris à la faire dans le championnat de Suisse. Mais
ouais, comme tu dis, hein, un bon américain qui ignorait tout, mais au moins il est honnête. Hein, il ne cherche pas à s'inventer une passion pour la Suisse de ces dernières années. Non, il a clairement dit qu'il ne connaissait rien, mais en l'occurrence qu'il semblait être heureux à Genève et c'est tant mieux parce que son apport sur la glace, il est précieux. Les fribourgeois qui tentent de repartir avec Marchand qui est bien pris par Dave Souter qui remporte le deuxième duel entre les deux hommes ce soir. Et Genève Servette qui va tenter de repartir avec Verboon qui est envoyé au sol par un fribourgeois. Attention, ça va donner une possibilité de rupture peut-être pour Julien Sprunger. Sprunger pour Sailer qui peut rendre à Samuel Valzer. Valzer pour Marchand. Marchand qui adresse un tir, c'est contré. Le petit traîne un petit peu devant le but de Stéphane Charlin, mais les Genevois qui peuvent se sortir de cette situation. Eric Schneller qui peut rejouer derrière lui pour Dave Souter. Souter, une bonne relance pour Verboon. Verboon, il y a un homme qui a pris un petit peu de la vitesse sur la gauche, c'est Miranda. Miranda qui rate son contrôle. Et il y a un homme qui doit aller faire l'effort, c'est Ignatavicius. Ignatavicius qui sera trop court et ça va permettre à Fribourg de récupérer ce puck dans sa zone avec Jacob Delarose. Delarose avec Glauser, une longue relance pour un homme qui attendait là, la bleue, c'est bien joué cette sortie de zone là pour Fribourg avec Streul et Streul qui peut déborder sur la gauche de l'attaque genevoise, l'attaque fribourgeoise pardon. Le puck qui revient devant le but, enfin qui a passé derrière le but de Stéphane Charlin, toujours en position des fribourgeois avec une belle transversale là. Streul, un puck, une Charlin là, Charlin qui a déplacé son but, la fameuse, alors que ça brasse un petit peu entre Yann Ruta et Streul.
C'est plus Ruta et Streul, il y a quelqu'un d'autre qui a substitué à Streul. Ouais, il y a un petit coup sur le gardien qui a été donné.
Ouais, donc finalement Glauser s'en prend aussi à Ruta. Voilà, les esprits vont évidemment se calmer. Hein, c'est des scènes habituelles d'un match de hockey, tout comme le déplacement de la cage de Stéphane Charlin.
Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression, en tout cas, ça me marque parce que samedi ça m'a frappé comme les Genevois ont frappé. J'ai l'impression qu'il y a plus de protection du gardien maintenant qu'on a pu le voir. Alors, en tout cas ces deux dernières saisons, j'ai l'impression qu'il y a plus souvent. Il y en a eu samedi, mais c'est resté bon enfant, des petits échanges, des petits échauffourées après le après un arrêt de jeu avec un puck gelé par Garnier Genevois.
Ouais, bah après Yann Routa, il est pas là pour rigoler, hein. Et je pense qu'il entraîne un petit peu ses autres coéquipiers aussi.
Il y a eu Carrère, il y a eu Bernie, ouais. Enfin.
Alors Carrère, il l'a toujours fait, mais c'est un petit peu moins ces dernières années. Bernie, c'est pas forcément trop son style. Par contre, je pense que l'arrivée d'un Yann Routa dans le VCR avec son expérience, son vécu,
il prend un bon cross-check.
Ouais, Routa, il est envoyé, envoyé sur Stéphane Charlin par Maximilian Stroiler, effectivement. Donc Routa, il aime pas ça forcément. Mais je pense quand même que voilà, un Routa, il a une expérience NHL, il a gagné la Stanley, il a gagné les Jeux Olympiques, enfin c'est les championnats du monde, championnat des deux.
Ouais, les championnats du monde.
Il a un gros palmarès derrière lui, c'est un joueur qui est probablement écouté dans le vestiaire, et peut-être qu'il a aussi fait ce constat, hein, que ça manquait.
Et qu'on salue s'il nous écoute.
Et qu'on salue, effectivement. Et peut-être simplement qu'il a aussi fait ce constat que ça manquait de muse de temps en temps devant les buts. Et lui, et encore, c'est toujours pareil, quand t'as quelqu'un qui est dans le vestiaire qui montre un certain exemple aussi sur la glace, derrière tu vas suivre cet exemple-là. Et si tu te fais, si tu t'en prends une à chaque fois que tu fais pas le ménage devant ton gardien, de la part de Yann Routa, je pense que tu t'en prends une fois, deux fois, ouais. Puis la troisième fois, tu dégages le joueur à faire.
Ouais. Alors qu'on a le service de glace qui est arrivé pour nettoyer des objets sur la glace et pour recycler la cage. Décidément, l'aventure luganaise, la mésaventure luganaise de Sgarbosa, un des joueurs vedettes de Lugano, qui a été blessé par une pièce lancée sur la glace par les fans luganais, n'a pas refroidi les fans fribourgeois. Et pour revenir sur Yann Routa, effectivement, il a gagné 2 ans de suite la Coupe Stanley, 2019-2020, 2020-2021 avec Tampa Bay, et il a gagné en 2024 la médaille au championnat du monde contre l'équipe de Suisse.
Voilà,
en finale à Prague devant son, donc il a quand même gagné les mondiaux devant son public, et ça doit être quand même une expérience hors norme, une expérience que la Suisse espère vivre notamment cette année, puisqu'en 2026 les mondiaux auront lieu entre Zurich et Fribourg. Alors que le puck
est sorti de l'air de jeu, et pour revenir sur les autres patineurs, Lausanne qui a pris 2 longueurs d'avance sur la patineur de Rapi, qui mène désormais 3-1, Zug qui mène 2-0, ouais. Face à Berne,
on vient de revoir le contact de Delarose sur Routa, il est limite quand même, hein, ouais. Le geste de Delarose, attention de ne pas laisser les Genevois fribourgeois descendre des joueurs volontairement.
Ouais, effectivement, et de ne pas énerver Yann Routa, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il va finir par s'énerver vraiment. Et il ne faudrait pas qu'il fasse le geste de trop, parce qu'on sait que souvent les arbitres sanctionnent la réponse, ouais, plutôt que la provocation. Donc attention à ne pas tomber dans ce petit jeu-là. Pendant ce temps-là, Fribourg a gagné l'engagement. Il y a un petit remue sur Glauser. Glauser pour, oui, Sorensen. Mauvais espace de Sorensen. Des bonnes interceptions de Pouliarvi. Pouliarvi qui bouge avec Manninen. Manninen pour Granlund, qui a de la vitesse. Granlund qui rate complètement sa passe. Marcus Granlund. Sorensen, c'est au moins la troisième fois qu'il rate une passe facile. Ouais. À ce niveau-là de la glace, peut-être en profiter une fois ou l'autre. Là, il y avait une opportunité qui n'a pas été saisie par la ligne des Finlandais, mais c'est pas fini avec Granlund qui peut jouer pour Saarijärvi. Saarijärvi qui rend à Sakari Manninen sur la droite de l'intergeloise. Manninen qui peut jouer avec Pouliarvi. Pouliarvi qui trouve, oui, une magnifique passe pour Saarijärvi. Le tir est contré. Granlund qui peut contrôler de la main juste à côté de Reto Berra. Et Granlund qui est pris pour un défenseur fribourgeois, et Fribourg qui va s'en sortir. Ça manque, il y a quelque chose, mais ça manque de tranchant encore, ouais, du côté des Finlandais ce soir, comme souvent, j'ai envie de dire. Mais on sait aussi que le match est encore long et qu'ils ont la capacité de nous faire vibrer bien plus qu'une fois.
Avec Joris qui va récupérer le puck, on est en train de changer de ligne, vous l'aurez compris, on est en zone défensive. Genevoise à 4 minutes 37 de la fin de ce premier tiers, toujours 0-0 actuellement. Attention, Joris, on l'a passé, dévié par Yann Dort, et du coup les Fribourgeois ont pu récupérer le puck parce que Bernil cherchait du regard. Le puck qui est à la ligne bleue maintenant, donné pour Radgeb sur la droite. Attention, Radgeb qui avait été redoutable lors du succès 6-2 ici. Le Fribourg contre Genève s'arrête, le tir, l'arrêt de Stéphane Charles ou l'extérieur du poteau, je sais pas, mais en tout cas c'est pas dedans. Le puck qui va revenir, ouais, dans plein milieu du slot sur un jeune. Et on peut repartir sur la droite avec Boson. Boson qui a de la vitesse, Boson qui est en pleine forme. Ça peut faire un sacré mélange, ouais, la passe de Boson pour Visi de l'autre côté. Bien joué, on va essayer de revenir devant les buts. Mais alors, je ne sais pas ce qu'a tenté Visi, mais c'est arrivé sur la poitrine de Yann Dort. Les Fribourgeois qui repartent plein axe avec Radgeb. Attention, il y aura un surnom là, amené par les Fribourgeois à 3 contre 2. Mais bonne lecture du jeu de Roger Carrère. Le puck est au moins sorti de la zone offensive puisque le contrôle de Visi a été manqué ensuite. Les Fribourgeois qui reviennent directement dans la zone offensive. On est sur la droite avec un puck qui va être lancé derrière les buts de Stéphane Charlin. Verboon sera le premier sur ce puck. Verboon qui va réussir à récupérer, et Radgeb qui va réussir à gêner la relance servétienne, et les servétiens qui sont très vite gênés par le pressing adverse. Alors que là, on va repartir de derrière les buts avec Radgeb qui évite intelligemment la charge d'un fribourgeois. On va pouvoir
ça fait deux fois que tu appelles Schneller Radgeb, quand même. C'est perturbant.
Schneller Radgeb,
oui, ça fait deux fois que tu dis Radgeb à la place de Schneller parce qu'il a le 27. Ah ouais, ça m'a perturbé la première fois, je me suis dit mais pourquoi,
et... Non, mais Radgeb, si, il était sur la glace.
Non, tu viens de dire Radgeb, éviter la charge de défenseur.
Ah pardon, ah ouais, d'accord, dans ce sens-là. Parce qu'il y a eu Radgeb avant qu'il y a eu une action, ouais. J'ai cru que je l'avais appelé Schneider, non, alors effectivement je me suis planté, autant pour moi.
Non, mais c'est surtout que Radgeb, ça pique un peu, tu vois.
Ouais, mais j'ai même pas remarqué.
Un autre joueur, j'aurais pas relevé, mais Radgeb.
J'ai même pas remarqué.
Radgeb qui évite la charge d'un attaquant fribourgeois, c'est-à-dire qu'il jouerait pour Genève Servette.
Ah, non, mon Dieu.
Il y a des choses auxquelles on n'est pas prêt.
Tu fais bien de me le rappeler. Mais j'avais pas fait gaffe. Allez, engagement en entrée de zone genevoise. Engagement remporté par Mathieu Verboon.
Ouais, Verboon qui peut jouer avec celui qui n'est pas Radier, mais qui est bien Eric Schneller. Les Genevois qui vont envoyer le puck. Qui est derrière le but de Béra, récupéré par les Fribourgeois. C'est Servette qui parvient pas à s'installer, mais qui récupère un bon puck là avec Noirod. Il y a pas mal de petites erreurs là des Fribourgeois avec ce tir des Noirod. Et l'arrêt de Reto Béra, ça brasse un petit peu entre Rod et Johnson. Ouais, les débats qui s'animent. On est bien dans un derby entre deux équipes qui ne s'apprécient guère, surtout avec Noirod sur la glace. Alors ça reste gentil pour l'instant, hein. Quelques coups par-ci par-là, c'est rien de bien méchant, mais on va surveiller quand même. Alors ah, ça c'est vraiment mon champ préféré, ça, le champ frontalier. Alors celui-là c'est une pépite sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais je pourrais, mais je ne le ferai pas.
Ouais, bah voilà, ouais. Voilà. C'est qu'ici, on est plus loin de la frontière qu'à Genève. C'est factuel. Alors ça a commencé entre
Rod et Johnson.
Ouais. Mais Johnson qui est pas du tout fribourgeois, qui a été formé à... qui a fini sa formation à Zoug. Alors est-ce qu'il a fait toute sa formation à Zoug, je ne sais pas. Mais l'année dernière il a éclos vraiment avec le maillot de l'EVZ. Ouais.
Et Fribourg, il a bonne idée d'aller le chercher. Hein. Fribourg qui a beaucoup de bonnes idées sportivement parlant quand même ces dernières saisons. On va le dire, même si on n'aime pas le dire, mais il faut savoir le reconnaître. Johnson, Attilio Biasca aussi.
Jonas Tebel,
les retours des Fribourgeois, notamment Berti, Glauser. Enfin c'est quand même. Il y a du bon travail qui est fait du côté de Fribourg, on peut pas le nier quand même. Mais c'est vrai que typiquement c'est des noms, ça, quand tu vois Biasca, Table, Art Johnson, je connaissais peut-être un peu moins, mais chaque fois que tu les vois signer ailleurs, tu dis hey, lui il aurait pas fait tâche à Genève, surtout dans une période où il faut aller chercher de la jeunesse. Genève Servette, ça n'y arrive pas. Alors
ouais, Johnson qui a tout fait à Zoug, je vous comprends.
Et Fribourg a réussi à le convaincre de venir, donc c'est quand même pas évident. Pouliervi qui est en zone offensive, alors que et Johnson et Rod iront s'asseoir deux minutes sur le banc. Les deux hommes qui ont été sanctionnés en même temps, alors que là il y aura un dégagement interdit sifflé contre les Genevois, ce qui fait que le puck va rester en zone offensive avec Marcus Granlund qui cherche et qui temporise un tir sur Reto Béra. Pas de rebond accordé par Reto Béra, si ce n'est pour lui-même. À 2 minutes 33 de la fin du premier tiers, toujours pas de but. C'est un derby qui n'a pas encore complètement démarré termes de jeu. Il y a des émotions, mais ça manque de franches occasions pour l'instant.
Ouais, on a eu un gros plan sur Marcus Granlund, pas satisfait de lui. Je l'ai dit, il est arrivé en 2022-2023 à Lugano et depuis, sur tous les matchs joués, donc c'est pas non plus 15 matchs joués, c'est arrivé qu'il y a 8 reprises, 2 matchs de suite ou plus, il y a eu des fois où c'était 3, mais jamais plus que 3, 2 matchs de 8 fois seulement où il n'a pas marqué de points sur 2 buts de suite, Marcus Granlund. Sur deux matchs de suite, pardon, alors que l'engagement sur la gauche de l'attaque, je le vois, a été remporté par Fribourg. On va pouvoir repartir sur la droite avec Strelé qui va pouvoir donner à Berti, attention, il appuie Berry Borgström qui va tirer et ça passe à côté. Début de Stéphane Charlin, alors le tir était aussi vif que violent. Heureusement, je crois que Stéphane Charlin fait tout juste l'arrêt. Le puck qui est repoussé, la Glauser. Le puck qui est maintenant Servetien avec Pouliot qui a donné une bonne transversale pour Ruta qui franchit la ligne rouge, qui rentre dans la zone offensive et qui met un puck sur Reto Béra qui intelligemment ne gèle pas cette rondelle. Et le puck va être récupéré par personne. Là, Vincent Praplan qui a manqué son affaire. 2 minutes 03. À jouer encore dans le premier tiers et Ignatavicius qui entre en zone. Ignatavicius qui est bien chargé par Glauser, qui a pris presque un coup à la tête quand même, qui est sonné. Ignatavicius là, on espère que ça va aller. Rejoint le banc en se tenant la tête. On va évidemment surveiller Ignatavicius qui a pris un gros tampon là de la part d'Andrea Glauser. Ça lui a peut-être coupé la respiration aussi. Alors que, qu'est-ce qui se passe?
Les arbitres qui interrompent le jeu.
Apparemment, il y a un surnom de Genève Servette.
Bah parce que je pense que Vizy est rentré trop vite au moment où Ignatavicius retournait au banc.
Ouais, là,
c'est
ça.
C'est ça, vraiment ça.
Ça, c'est vraiment la pénalité débile par excellence.
Parce qu'Ignatavicius revenait au banc, mais évidemment pas très vite, vu qu'il venait de prendre une grosse charge de Glauser. Et Vizy est arrivé sur la glace de manière probablement un peu trop intempestive. Les arbitres l'ont vu. Et c'est pas parce qu'un joueur est sonné que ça donne la possibilité à celui qui le remplace de rentrer plus vite, sinon ça serait trop facile. Et ce qui fait que voilà, alors on revoit la charge de Glauser. Je pense vraiment que c'est Ignatavicius qui va s'empaler dans Glauser. Je pense pas qu'il y ait faute, ce qui veut pas dire qu'il a pas pris un coup. Et on va voir l'action de Borgström, effectivement. Mais par contre, le surnombre, il est vraiment bête. Hein. Vizy, là, c'est.
Ah, c'est Boson qui. Alors, ah oui, non, parce qu'il y avait un joueur sur le banc, mais c'est Noirot qui continue de purger sa.
C'est Boson qui va la purger, mais c'est vraiment Vizy qui est rentré sur la glace, alors qu'il n'aurait pas dû. Mais c'est Boson qui va purger les deux minutes.
Bah, du coup, est-ce que c'est pas Boson?
Ah, pour moi, c'est Vizy à
100%. Ouais, je sais pas. Effectivement, c'est Vizy qui a été pointé du doigt. Et du coup, je lève sa tête en infériorité numérique. Ah, Samir, il y a une pamplette très rapidement dans le match pour Fribourg. Il y a un pamplette en toute fin de tiers pour Fribourg. Attention, ça ne coûte pas cher. Ouais, l'inverse, ouais, dommage. Là, Joris qui a tenté de servir. Jimmy Vizi qui, du coup, sur la glace avec Borgström, le puck qui va être récupéré par Cap. Là, les Fribourgeois qui ont installé le jeu de puissance. La feinte, le tir de Sorensen, c'est sur Schmid, le tir qui revient de l'autre côté. Oh, le sacrifice de Sarri-Hervy, l'arrêt de Sarri-Hervy, magnifique. Charlin a été battu, c'était extrêmement bien joué. Charlin qui n'a plus de canne. Attention, le puck qui est sur la droite. Sorensen qui est en possession du puck sur la droite de l'attaque fribourgeoise. Le puck qui va essayer de donner sur Charlin et le dégagement des Servettes. Tiens, Charlin va pouvoir récupérer sa canne. Encore 1 minute 15 à jouer dans ce tiers.
Ah, et Fribourg qui va finir ce tiers en power play si tout va bien pour Genève Servette. Kapla qui peut rentrer en zone pour les Fribourgeois. Kapla qui joue sur sa droite pour Sorensen. Sorensen qui rend à Kapla. Kapla pour Borgström. Borgström, attention parce qu'il y a Sorensen qui attend le tir au deuxième poteau. On le voit là. Sorensen qui est prêt dans son bureau sur la droite. Mais pour l'instant, on joue sur la gauche avec Borgström et Kapla. La bleue Kapla pour Sorensen. Mais Sorensen qui n'est pas servi dans les bonnes dispositions. Sorensen qui temporise, qui tire la règle. C'est pas assez goal. Sur le rebond du tir de Sorensen, c'est Sandro Schmidt qui peut soulever le pote sous la latte de Stéphane Charlin. Ouais, on l'avait un petit peu senti venir là, ce but sur le powerplay fribourgeois qui était bien installé. Et le boxplay, je le vois, qui s'est fait surprendre là. Tir de Sorensen, rebond de Stéphane Charlin et but de Sandro Schmidt.
Ouais, effectivement. Et voilà, c'est une pénalité bête, un surnombre, c'est vraiment la pénalité stupide. Et rien pour le coup, rien à dire, hein. Pas moyen de le contester celui-là.
Ouais, si ce n'est que Schmidt, il est quand même 10 secondes tout seul dans le slot, sans carrière, s'en occupe.
Ouais.
Ce qui fait que forcément, il a le temps de prendre le rebond. Avec un peu de passivité là, de Roger Carrière quand même, devant dans le slot. Et il ne peut pas s'occuper que de lui, mais je pense qu'il doit le surveiller un petit peu plus là. Un peu de passivité, j'ai l'impression, de la part de Carrère. Et du coup, ça fait 1-0 pour Fribourg.
Ouais, voilà, on pensait que Fribourg avait marqué très rapidement après un peu plus de 2 minutes dans le premier tiers. Le coach challenge est venu contredire ça. Bah, Fribourg a quand même marqué, mais en fin de première période, 46 secondes encore à jouer. Et Granlund qui manque ça, pas Chanton qui va récupérer. Allez, je sais qu'il ne parviendra pas à égaliser sur cette action parce que le puck est sur Christophe Berti. Berti stoppé par Granlund. Le puck qui va être envoyé derrière les buts de Stéphane Charlin, mais ça va être récupéré. Maintenant, le puck est sur Marchand, attention le tir. Ouais, les Servettiens qui doivent pas non plus laisser Fribourg survoler cette fin de première période. Le puck est sur la droite avec Pouliervi. Et qu'est-ce qu'on siffle? Le jeu a été arrêté. Je pense que le puck est sorti de la surface de jeu. 23,3 secondes à jouer et donc 1-0 pour Fribourg-Gotteron. But marqué par Sandro Schmidt, le 8ème de la saison.
Ouais, c'était une pénalité bien bête, hein, copiée par les Genevois là, pour ce surnombre alors qu'Ignatavicius revenait au banc. Encore une fois, hein, Ignatavicius, certes, il a pris un coup, mais ça lui donne pas un joker de 5 secondes pour rallier son banc.
Après, ça joue des fois à pas grand chose. On sait qu'il y a une zone d'un mètre et demi devant le banc où dès que le joueur est dedans, l'autre peut rentrer. Et voilà, ça peut être une mauvaise estimation ou je ne sais pas.
Alors ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été trop contesté par les Genevois, un petit peu, mais pour la forme plus qu'autre chose. Mais ça n'a pas crié au scandale. Alors qu'on va probablement rester là. Il reste 10 secondes, le puck est sur les cannes, fribourgeoises. Maintenant, au milieu de la patinoire.
On va rester là.
On va en rester là, à 3 secondes de la fin. Fribourg qui va donc rentrer au vestiaire avec un but d'avance.
Ouais, effectivement. 1-0 après 20 minutes, un but marqué de la 19e minute et 12 secondes pour être précis. Fribourg qui est donc devant 1-0. On vous de garder les analyses et ce qu'on a pensé de ce tiers pour l'après-pause, puisqu'on va se retrouver dans 15 minutes après le meilleur de la musique. On se retrouvera pour la suite de cette partie. 1-0 pour Fribourg après 20 minutes. A tout à l'heure.
Radio Lac, partenaire officiel du Genève Servette Hockey Club.